Onde Noire, deuxième partie. Et je crois que nous allons rester en Amérique du Sud, Jacques, pour le livre dont tu vas nous parler maintenant, me semble-t-il, non ?
Oui, sauf que le Mexique, c'est en Amérique centrale.
Pardon, excuse-moi. Bon,
bon nous allons aller...
Outre-Atlantique.
Voilà, outre-Atlantique. Nous allons aller au Chili. Alors, en fait... C'est un roman de Boris...
Eh bien, le Chili, c'est bien en Amérique du Sud.
Là, oui.
Ben voilà.
C'est un roman de Boris Quercia qui s'appelle « Temps de chien ». Alors, « Temps de chien », c'est avec une orthographe... c'est « Temps de temps » comme « Autant de chien », enfin, donc « T-A-N-T », de chien au pluriel, évidemment. C'est paru aux éditions Asphalt et c'est traduit par Isabelle Ciclodi. Alors, en fait, c'est un polar hard-boil. Un roman de gros dur, un peu comme on avait dans les années 50-60... Mais la différence, c'est que celui-ci se passe donc au Chili, on vient de le dire, et dans sa capitale, et c'est de nos jours. Et on va retrouver un flic dont on avait déjà parlé, qui s'appelle Santiago Quiñones. On l'avait découvert l'an dernier dans un roman qui s'appelait « Les rues de Santiago ». Et Boris Quercia, donc l'auteur, eh ben, il ne met pas vraiment son héros dans des situations confortables. Dans le premier... Santiago était complètement déprimé car il venait de tuer un jeune homme de 15 ans lors d'un braquage. Dans celui-ci, c'est son coéquipier qui défunte d'une balle perdue lors d'un affrontement avec des trafiquants de drogue. Son désespoir à Quiñones va même l'amener à coucher avec la maîtresse de son ami juste après l'enterrement.
Je n'appellerais pas forcément ça du désespoir, mais bon.
Non, certainement pas. Mais il va aussi, juste après cet enterrement, il va se rendre compte que la police des polices, alors je ne sais pas si on les appelle les bœufs carottes au Chili, parce que le Chili avec les bœufs carottes, ça ne doit pas être terrible.
C'est sûr, Chili aux carottes, non.
Donc en fait, cette police des polices, elle enquêtait du moins sur son collègue, et maintenant, en fait, elle va un petit peu enquêter sur lui. Elle le soupçonne, à défaut de complicité, au moins de cacher certaines informations. Et donc déprimé, il va un petit peu comme dans le début du premier errer dans la ville et il va tomber sur une vieille connaissance, sa voisine de jeunesse, la belle Yesenia, sur laquelle il fantasmait quand il était adolescent. Et là, elle va lui demander rien moins que de tuer son beau-père, donc le nouveau compagnon de sa mère, qui la viole là-bas et même la séquestre depuis des années. Bon, alors Quiñones, il lui reste quand même un brin de... conscience professionnelle, quoi. On peut quand même pas demander à un flic de tuer quelqu'un simplement, même s'il fait des choses horribles, comme ça, bon, on n'a pas vraiment le droit. Mais bon, elle est belle, donc il va foncer dans le tas et il va se trouver mêlé à des combines fort peu reluisantes. On est vraiment dans le roman noir hard boil, comme je le disais au début. Santiago arpente les rues de sa ville à la recherche des bad guys, les mauvais. Il boit pas mal. Alors, pas tellement de whisky, lui, c'est plutôt du pisco. Ben, on est au Chili. Il fume comme un
pompier. Amérique du Sud.
Voilà. Il fume comme un pompier. Il fréquente les bars à toute heure du jour de la nuit. Il en prend plein la gueule. Mais il rend les coups sans compter. Alors, voilà, Quiñones, il se lance dans cette nouvelle enquête un peu comme s'il était, comment dire, à la recherche d'une rédemption. Une rédemption fort peu probable, d'ailleurs, pour expier des fautes ou des erreurs de passé. Qui somme toute, bon, c'est pas toute sa vie, mais qui semble des erreurs qui semblent pas forcément mériter une telle rédemption, en tous les cas, une telle engagement dans cette enquête. Et Boris Quercia, en fait, se joue des codes de ce type de roman. Un polar urbain dans une ville polluée au possible, où la corruption semble atteindre toutes les couches de la société, et où les notables, bien que coupables, se pensent intouchables, et d'ailleurs, certains le sont d'une certaine manière. C'est un roman court, rapide. Le rythme ne faiblit jamais. Il est écrit au jeu, au présent, avec des phrases courtes qui percutent. C'est fort et c'est chaud, c'est dense et c'est violent, mais pas du tout dénué d'amour, de romantisme et de sexe. Il en faut un petit peu quand même. Boris Quercia est surtout connu dans son pays comme acteur et réalisateur de cinéma. Et cela se sent un peu dans son écriture. Le rythme, je l'ai déjà dit, mais aussi parfois le cadre ou les points de vue qui pourraient être ceux d'un cinéaste. On va juste revenir sur le titre, « Temps de chien ».
Il pleut beaucoup ?
Non, parce qu'en fait, ce n'est pas le temps T-E-M-P-S, c'est le temps comme le
nombre.
Il y en a beaucoup. Et en fait, le titre en VO est « Perro muerto », c'est-à-dire « chien mort », mais au singulier. Et sans déflorer l'intrigue, il va effectivement y avoir un chien mort. Alors, les chiens au pluriel du titre français, on peut supposer qu'ils font allusion aux... enfin, c'est métaphoriquement à des personnages qui sont pas terriblement...
Oui. Et à cette chaîne de vie, peut-être.
Et peut-être à cette chaîne de vie, voilà. Donc, Boris Kersia, Tant de chiens chez Asphalt.
On va peut-être dire le nom de la traductrice,
oui,
me semble-t-il.
Oui, la traductrice est Isabelle Ciclodi.
Alors, la traductrice du livre dont je vais vous parler, c'est Sophie Aslanides. Et c'est la traductrice attitrée de Craig Johnson, qui nous livre un très joli, c'est pour ça que je voulais vous en parler ce soir, un très très joli conte de Noël. Conte de Noël qui s'appelle Steamboat. Là, pas de problème.
Bateau à vapeur.
Bateau à vapeur, mais non, l'histoire est beaucoup plus luxe que ça, parce que Steamboat, ben d'abord, c'est, faut savoir, j'ai appris ça, mais on connaît tous sur les plaques américaines, les plaques de voitures américaines, il y a des petits symboles, et celle du Wyoming, c'est un chien cabré, un très beau chien, pardon, un chien, un cheval, c'est ton livre, là, Tant de chiens, donc c'est un cheval, et donc ce cheval, vous apprendrez toute son histoire en lisant ce livre, s'appelait Steamboat, parce que, voilà, par les naseaux, bon, il y a plein d'histoires comme ça. Parce que Craig Johnson, depuis le temps qu'on le fréquente, c'est surtout et avant tout un très beau tricoteur d'histoire. Alors, vous le fréquentez peut-être un petit peu moins que nous. Donc, je rappelle que depuis quelques années, on a découvert aux éditions Gallmeister cet auteur à travers un personnage, un flic, un shérif, exactement, shérif du comté d'Absaroka, dans le Wyoming. Et ce shérif s'appelle Walt Longmire. Walt Longmire, il gère tout un comté qui est immense, qui est une immensité blanche l'hiver, très très blanche et très très froide, une immensité chaude. Il a ses copains, en particulier Harry Standing Bear, qui est un Indien, un Amérindien, et on va pas le voir d'ailleurs dans ce conte de Noël.
Et les Indiens, ils font pas Noël.
Voilà, c'est ça. Depuis très très longtemps. Et en fait, l'on apprend ici qu'il est shérif en fait depuis 1989, et qu'en 89, il s'apprête à fêter son premier Noël en tant que shérif. Son copain, son coéquipier, enfin plus exactement le shérif qui l'a remplacé, il a été élu, hein, on sait que les shérifs sont élus aux États-Unis, Luciane, il avait décidé, voilà, il s'est présenté contre lui, il a gagné, c'est toujours son copain, mais voilà, il se voit moins. Et puis, une veille de Noël, arrive un étrange convoi, par le ciel, une petite fille qui a été grièvement blessée dans un accident, grièvement brûlée. Sa seule survie, c'est il faut qu'elle aille dans un grand hôpital à 2 heures d'avion d'ici. Seulement, on est Noël, on est dans le Wyoming, et c'est une immense, une horrible tempête de neige qui s'abat sur toute la région et qui est surtout sur le chemin. Donc l'hélicoptère qui a amené la petite fille avec sa grand-mère, seule survivante, elle vient de perdre ses parents, elle vient de perdre la petite fille, elle vient de perdre son frère ou sa sœur, je me souviens plus. Et il y a la grand-mère, et il y a le médecin. Et Walt Longmire va devoir prendre certainement sa première décision de shérif. Ou cette petite fille va mourir, ou il va trouver un moyen de la véhiculer jusque à Denver, là où il va y avoir un hôpital digne de ce nom pour la sauver, peut-être la sauver.
Ah, oh, mais c'est un conte de Noël.
C'est un conte de Noël. Et à quoi il va penser ? Il va penser que, dans un hangar, le seul avion qui peut tenir le coup dans cette horrible tempête de neige, ben c'est un vieux bombardier de la guerre, B-25, qui est servi contre la guerre contre les Japs. Et puis, il va se souvenir que bah, les gens qui sont autour de lui, en particulier la jeune femme qui l'aide dans cet aérodrome, bah, ils ne savent pas conduire cet avion. Et le seul qui sait conduire l'avion, c'est Luciane. Luciane, il l'a conduit, ce bombardier, il y a très longtemps, ce steamboat, bah, quand il était en guerre contre les Japs. Est-ce qu'il va se souvenir ? Est-ce qu'il va accepter ? Ça ne date pas d'hier. Et la petite fille, bah, la grand-mère, elle est japonaise. Donc, il y a une métaphore très jolie, et c'est un vrai conte de Noël. Et c'est d'autant plus un conte de Noël que, dans la poche, cette année-là, en 89, comme maintenant, Walt Longmire, il a l'habitude d'avoir le chant de Noël de Dickens. Vous savez, ce fameux conte où il y a le Scrooge, qui est très méchant, et puis qui, le jour de Noël, devient très gentil, et qui est emblématique aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons. Alors, pour parvenir à destination, parce que forcément, c'est qui va arriver à destination, puisqu'on suit les aventures de Walt Longmire maintenant. Il va arriver à destination, mais Walt Longmire, entre-temps, le médecin, le conducteur de l'avion, du steamboat,
le pilote,
ben, ils vont accomplir des miracles en cette nuit de Noël. Donc c'est une très très belle histoire. Et encore une fois, comme je le disais au départ, bah Craig Johnson, il sait très bien nous raconter des histoires. C'est pas un roman noir, c'est pas un roman policier. Comme il le dit à la fin, c'est bon, en gros un roman d'aventure. Ça fait 190 pages. Voilà, moi je vous conseille de vous installer vers le 23-24 décembre, ou peut-être de le trouver au pied du sapin de Noël. Et puis de l'ouvrir et de vous laisser embarquer dans cette histoire auquel, évidemment, on va pas croire beaucoup. Cet avion, c'est pas possible qu'il vole. Mais juste, on a envie d'y croire. Et on a envie que Luciane, eh ben, lui qui s'est battu dans cet avion contre les Japonais, il sauve cette petite fille d'origine japonaise. Donc ça s'appelle Steamboat, Craig Johnson, traduit par Sophie Aslanides. Et comme d'habitude, Craig Johnson est... édité aux éditions Gallmeister, collection noire. Un petit peu de musique, Jacques ?
Un petit peu de musique. Un musicien, un bluesman camerounais qui s'appelle Blik Bassi. Et la chanson qu'on va écouter s'appelle Omaya.
Sever mei in you bon le pingem le min london ma be povan ko pa be van la letani you le bis bot diven nai ni kire bova berle reme bova e oh umaya Be Umaya, Umaya, oh, Umaya, eh. Oh, baby, save me. Bobanka, baby, lonely me.
Voilà, c'était donc, je pense que ça vaut le coup qu'on redise.
C'était donc Blik Bassi, la chanson s'appelle Omaya. Et donc en fait, pourquoi j'ai choisi ce chanteur ? Parce que c'est un chanteur camerounais, et l'auteur dont on va parler, et il est gabonais. Donc c'était le, je ne connaissais pas d'auteur, de chanteur gabonais.
Afrique du Sud, Afrique du Nord,
Afrique de l'Ouest,
centrale,
voilà.
Afrique de l'Ouest.
Et bon, et le Gabon est juste à côté du Cameroun. Et d'ailleurs, dans les romans de, donc c'est un roman dont je vous ai parlé, c'est un roman de Janice Otsiemi. Et en fait, les Gabonais, ils aiment pas trop les Camerounais. Donc voilà, ça fait une liaison, disons. Ce roman, donc, qui est paru aux éditions Gigal, s'appelle Les voleurs de sexe. Alors le polar africain, c'est encore assez rare de nos jours. Il y en a quelques-uns, mais voilà. Et Janice Otsiemi, c'est un des plus marquants de ses représentants de ce polar-là. Il situe tous ses romans au Gabon, il est gabonais, c'est son pays donc. Et plus précisément, la plupart, à Libreville, qui est la capitale. Alors le titre est un petit peu accrocheur, Les voleurs de sexe. Et en fait, il ne sera pas tellement question dans ce roman de ces prétendus voleurs de sexe qui, d'un simple attouchement, déroberaient aux hommes de la ville leurs plus précieux attributs. Car en fait, les forces de l'ordre, elles sont plutôt en effervescence et elles sont guère intéressées par cette rumeur qui est devenue un peu, une légende urbaine. Comme souvent dans les romans de Janis Otsiemi, la trame de l'histoire est multiple. Alors là, dans celui-là, les flics, d'un côté, recherchent les braqueurs d'un mania chinois qui s'est fait piquer des sous, et c'est un peu mal fini. Et de l'autre côté, les gendarmes, eux, tentent d'empêcher la divulgation de photos volées du président, qui pourrait lui nuire. Alors, comme dans ses précédents romans, Otsiemi dissèque en fait la société, la politique, la vie et les mœurs de son pays. Il nous raconte. Alors pour nous, on connaît assez mal, donc c'est très intéressant. Et c'est quand même un polar qui est très très urbain. Ça se passe vraiment dans la ville, même si elles en sortent un petit peu. C'est un roman social aussi, très contemporain, où en fait on découvre les petites turpitudes du quotidien qui côtoient et les prévarications des plus hautes sphères de l'État. Il y a aussi cette fameuse France-Afrique, dont on a beaucoup parlé, qui a perdu pratiquement toute son importance, mais qui a été très vite remplacée par ce qu'on pourrait appeler la Chine-Afrique, car les Chinois, les investisseurs chinois ont fait de cette partie du continent, on pourrait dire, leur précaré. Il nous raconte aussi, Otsiemi, les magouilles, les compromissions, les malversations, qui semblent assez bien réparties dans toutes les couches de la société, du flic de base aux divers ministres, voire le premier, etc. La corruption semble être la règle dans son pays. Peut-être pas que dans son pays, d'ailleurs. Heureusement, en fait, la noirceur et la sévérité du propos est compensée par une langue, une écriture tout à fait jubilatoire. Il nous rend parfaitement l'ambiance de son pays, la chaleur, la poussière, le bruit. Et surtout, il utilise un vocabulaire imagé, métaphorique, inventif, des expressions savoureuses ou même poétiques qui ne sont pas sans évoquer Saint-Antonio et la façon dont Frédéric Dard disait qu'il faisait des petits à la langue française. Il invente pas forcément des mots, mais au moins des expressions. Janis Otsiemi adore ses personnages, du moins ceux qui sont de fiction. Quand c'est les vrais personnages, le président, certains ministres dont il cite les noms, non, ceux-là, il les aime pas. Mais ses personnages, même les plus veules, il leur donne toujours une petite chance. Et Otsiemi, c'est un conteur, un griot, un peu comme le chanteur qu'on écoutait avant. Un griot moderne dont on déguste les histoires, les contes. Même si ses intrigues, en fait, il aime tellement ses personnages qu'il délaisse parfois un petit peu ses intrigues au second plan. Mais voilà, c'est un vrai régal de lecture. Ça fait du bien, c'est drôle. On rit pas, mais c'est très drôle. Et on apprend quand même des choses sur ce pays.
Voilà, alors comme vous l'aurez remarqué, c'est un peu quand même la dernière émission avant la fin de l'année. On ne vous a pas parlé de romans très très noirs, mais de romans un petit peu plus enlevés, de romans qui vous emmènent dans les quatre coins du monde. Donc on va vous souhaiter un bon boudin. Finissez bien l'année, commencez bien l'autre, et on se retrouve dès le 6 janvier, je crois. Chacun dans son coin avec un bon bouquin.
Ou plusieurs.
Au revoir.
Au revoir.